to the love you made. Merci, monsieur le maire. Merci à vous autres. Prenez soin de vous. Prenez soin des vôtres. Prenons soin des autres. Go, Habs, go! On se reparle demain, après une victoire du Canadien.
Hey,
let's go. Bye-bye.
Boulevard. Boulevard 102.1. Se bat à tous les jours pour vous donner l'heure juste. Traitez l'actualité qui nous entoure avec les spécialistes qui savent de quoi ils parlent.
Oh my God, I can't believe it.
Boulevard décortique. Boulevard rassemble. Rassemble. Come together. La radio rassembleuse de Québec.
Maintenant, 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est un plaisir de l'avoir avec nous ce soir. En plus, ça tombe dans la fièvre des séries éliminatoires. On se pose plusieurs questions par rapport à leur travail. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Justin Saint-Pierre, qui est un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey, qui a arbitré à peu près 1200 matchs. C'est ce qu'on nous mentionne dans sa biographie. Salut Justin!
Salut, ça va bien?
Ben oui, très content de te jaser. 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Tu dois en avoir des anecdotes, puis pas à peu près.
Ouais, on a un petit peu, absolument. Ça fait partie de la game de hockey aussi. Hein. On n'est pas obligé tout le temps d'être bête sur la glace, puis il faut avoir du fun, faut s'amuser.
Comment on fait pour devenir arbitre dans la Ligue nationale de hockey? C'est-tu un processus qui est extrêmement long? C'est quoi les qualités nécessaires pour avoir une carrière dans la Ligue nationale de hockey?
Écoute, c'est un peu comme un joueur de hockey. On a des superviseurs qui viennent nous voir. Moi, j'ai commencé au Lac Saint-Jean-le-Banel, puis... avec mon frère, puis à un moment donné, je me suis... ça allait bien, puis j'ai fait du junior de A, puis Doug Hayward du midget 3, l'arbitre provincial Doug Hayward qui était à Montréal, il faisait midget 3 junior majeur, junior 3. Sylvain Milton, qui était mon boss ici dans le temps, il l'a appelé, il a demandé, il dit, j'aurais quelqu'un qui aurait peut-être du potentiel, t'aimerais-tu ça venir le voir, puis effectivement, Doug est venu, il a fait une game midget 2B au Centre Georges Vézina. Puis l'année d'après, j'ai monté les échelons midget 3, junior majeur. Je suis parti dans East Coast avec Andy Van Allemen. Puis Andy est venu le boss des arbitres dans la Ligue nationale. Écoute, c'est oui, il faut que tu sois bon, mais il faut que tu sois à bonne place au bon moment également. C'est un peu comme un joueur. C'est comme ça que ma carrière a commencé dans l'arbitrage à peu près. C'est à peu près ça qui s'est produit.
Puis est-ce que c'était ça que tu voulais faire de ta vie, devenir un arbitre dans la Ligue nationale de hockey? Ça a-tu toujours été ton objectif ou t'es un joueur de hockey raté puis finalement ben, t'as bifurqué vers l'arbitrage?
Oui, j'étais un joueur de hockey raté. J'étais un bon joueur de hockey, pas gros puis tout ça, mais la première fois que j'avais fait un junior 2A à Dolbeau, je me rappelle comme c'était hier, c'était Michel Tremblay, journaliste, puis il était venu me faire une entrevue après. Puis il m'avait dit, j'ai dit, Michel, un jour, m'arbitrer dans le pro. Puis quand j'ai signé mon contrat avec la Ligue nationale en 2003, c'est la première personne que j'avais appelé. J'avais dit ça, il dit, voyons donc, ça se peut pas. Il dit, je te dis, je viens de signer. Ça fait que ça a été une belle anecdote, ça a été le fun. Puis oui, c'est un rêve que tout le monde, c'est un peu comme les joueurs d'hockey, les jeunes. Ben, je pense que les jeunes, c'est peut-être plus les parents qui rêvent, mais regarde, rendu là, on peut en parler longtemps. Mais écoute, c'est un peu comme un jeune joueur d'hockey qui veut monter dans le professionnel, puis c'est à peu près ça que j'ai fait.
T'avais quel âge quand t'as commencé l'arbitrage?
J'avais 15 ans quand j'ai commencé. 14-15 ans.
Ça devait être tough pour tes parents qui allaient te voir à l'aréna arbitrer, entendre des gens chialer après les arbitres sur la glace.
Ben, ma mère, elle était venue à ma première game junior majeur, je coutume ici. Puis elle n'est pas revenue. Elle m'avait fait tirer des... je ne sais pas comment c'est arrivé. En sortant de la glace, je m'avais fait tirer une planche à peu près large de même. C'était... C'est assez spécial, puis avec Oli un 10 au capitaine de Chicoutimi, puis avec Oli une position supplémentaire, il a perdu là-dessus. Mais écoute, Gaston Drapeau est coachant, puis après la game, il avait dit qu'il avait fait un excellent travail, c'était pas comme nous autres qui avait perdu. Puis non, ça avait bien été.
Est-ce que l'arbitrage t'a aidé à être fait fort entre les deux oreilles, ou t'avais déjà cette qualité-là, entre les deux oreilles, tu savais qui t'étais, puis t'avais pas besoin des gens autour de toi pour te définir?
Absolument pas. Écoute, j'ai tout le temps eu un caractère, une tête de cochon. Puis quand je suis un gars qui est assez direct, quand j'ai de quoi dire, je le dis. Je suis pas gêné. Et puis, ça m'a jamais affecté. Ça m'a jamais, jamais, jamais affecté. Dire, tu sais, faire huer dans l'aréna, c'est. Puis des fois même, c'est quasiment même motivant. Je te dis pas que j'aime ça, mais tu sais, ça m'a jamais, ça a jamais nui à mon travail. Puis, j'ai tout le temps été le même. Alors, puis je le dis à mes jeunes, j'ai mes écoles d'arbitre, je le dis aux jeunes. Ils disent, attendez-vous pas de vous faire dire, vous êtes bon, vous êtes fin, vous êtes beau, là. Et ça fait partie de la game. L'équipe qui va gagner, vous allez être bon. L'équipe qui va perdre, vous allez être pas bon. Et ça fait partie de la game. Fait que faites-vous une carapace, puis après ça, il faut que ça te laisse, ça te glisse sur le dos comme sur le dos d'un canard.
T'avais-tu, là, maintenant, tu peux le dire, t'es plus arbitre dans la Ligue nationale de hockey, mais t'avais-tu un joueur, une super vedette qui était dans ta tête, puis que tu rêvais d'un jour de rencontrer ce gars-là, puis à un moment donné, ben, t'as dû l'arbitrer. Qui était ce joueur-là?
Écoute, j'ai eu Mario Lemieux. Quand Mario Lemieux est revenu de son cancer, il est revenu sur la glace, je l'ai arbitré.
Ouais.
Mario Lemieux est tout le temps capoté dessus. Puis, écoute, c'est pas parce que je suis capoté dessus, j'ai donné des briques sur la glace, éventuellement, non. Puis j'ai eu Wayne Gretzky, que j'adorais Gretzky. Quand j'étais jeune, j'avais vu Gretzky sur le dos à peu près 3 fois par semaine. Puis Wayne, il coachait à Phoenix quand il a embarqué dans la Ligue. Je ne l'ai pas arbitré Wayne parce que il était retraité, mais il coachait à Phoenix quand il a commencé dans la Ligue.
Puis est-ce que
Fait
c'est
que.
dur justement de ne pas être concentré sur ces joueurs-là? Parce que, tu sais, veux pas, on idéalise ces gens-là. Tu sais, moi, si tu me demandais, c'est qui mon préféré entre Gretzky puis Lemieux, c'était Mario Lemieux. C'était un Québécois, c'était quelqu'un qui parlait ma langue, je comprenais ce qu'il disait. Puis c'était tout un phénomène sur la glace. Mais je suis pas sûr, justement, moi, avoir été sur la glace, j'aurais été capable de me concentrer sur d'autres choses que Mario Lemieux. Est-ce que vous devez, vous, justement, vous mettre dans un point de vue de neutralité, ces joueurs-là deviennent juste des numéros, ben c'est encore Mario Lemieux qui est là ou c'est encore le 99 Gretzky qui est sur la glace?
Écoute, c'est encore Gretzky, c'est encore le mieux, mais nous autres, on a un travail à faire. On ne peut pas arriver sur la glace et dire, ah, oh, Gretzky joue à soir, on va lui donner un petit break. On n'a pas le droit de faire ça. Parce que, tu sais, éventuellement, avec toutes les caméras qu'il y a dans les arénas, là, puis les micros, puis on n'a pas le droit de se permettre ça. Puis on a un travail à faire, puis je pense que tout le monde le sait. Puis je pense qu'on se sent pas déconcentré par ça. Mais éventuellement, tu sais, je te dis, Mario Lemieux, Gretzky, Crosby, c'est le fun de se ramasser sur la même glace que Gretzky, que Crosby, Ovechkin, quand il y a moins de timer sur le coin du cercle, là, c'est faux. T'en regarderas, là, t'en regarderas les arbitres à cette heure qui arbitrent, puis même moi, je l'ai fait. Quand il y a un avantage numérique, Washington, on s'en va tout le temps sur le même bord qu'Ovechkin, parce que la rondelle, elle peut t'arriver dans la face, elle peut t'arriver n'importe où, c'est juste que tu te fais débordir. Fait que l'arbitre change tout le temps de bord, il va se placer dans le côté où est-ce que Ovi attend le puck pour le one-timer, puis c'est ça qu'on fait. Mais écoute, on a un travail à faire, faut faire notre travail.
Puis le positionnement, ça a glace, là, parce que j'imagine que ça doit être plus facile quand on évolue au niveau atome, midget, tu sais comment te positionner, puis les gars sont pas si vite que ça. Mais dans la Ligue nationale, c'est les joueurs de hockey les plus rapides au monde. S'adapter à ce niveau-là doit être quand même assez incroyable. Faut pas que tu sois dans leurs jambes, là.
Non, absolument pas. Puis si on est dans le jambes, on se le fait dire, c'est pas long, là. Mais écoute, ça va tellement vite, comme tu dis, puis. On est comme nous autres, un genre de je sais pas trop, un dauphin entre les requins. C'est comme des requins qui. Mon chien m'a dit.
Il est arrivé un petit dégât.
OK, excuse-moi, c'est le chien qui était fâché. Écoute, on est comme un dauphin qui est à l'entour des requins. Ça tourne alentour de nous autres. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, puis ça n'arrête pas. Fait qu'il faut toujours se trouver un trou pour sortir de là, mais c'est pas toujours évident. Oui, on va être dans les jambes, ça va arriver une fois de temps en temps. On n'a pas le choix, on ne peut pas se sortir de là. C'est pas facile, mais encore là, ça fait partie de la game. Des fois, on arrive pour rentrer au but, puis on rentre dans un joueur. Des fois, on ne l'a pas vu le joueur. Ça arrive, là, hey, ça va vite, là.
Ouais.
C'est pas évident.
Les amitiés avec les joueurs de hockey de la Ligue nationale, c'est-tu possible quand on est un arbitre?
Écoute, on n'a pas d'amitié. Moi, j'en ai une amitié, parce que ça fait longtemps que je le connais. Puis Marc Denis, quand j'ai commencé, il était à Columbus. Puis écoute, on s'entraînait l'été ensemble. Mais ce que j'aimais avec Marc, c'est qu'on avait une job à faire sur la glace. Lui, il avait une job. À un moment donné, on s'est chanté des bêtises sur la glace. Puis après la game, on s'est revus, puis c'était fini, là. On ne parlait plus de ça. C'est ça que j'ai apprécié. Mais on veut pas avoir on ne peut pas avoir des amis là, proches, puis commencer à texter aux joueurs. Moi, je ne faisais pas ça personnellement. Je ne voulais pas faire ça. Puis oui, les joueurs, on les voyait. Moi, je restais à Columbus. Si j'allais à l'aréna, on voit les trainers. Je rencontrais tous les gars dans le champ. Puis je le rosais, mais c'était pas mes chums. Puis ils savaient qu'ils avaient un travail à faire aussi. Fait qu'ils s'attendaient pas d'un break à cause que je lui avais parlé le matin ou la veille.
Ouais. Les croisez-vous d'un bord une fois de temps en temps?
Ça arrive une fois de temps en temps. Puis on reste dans le même hôtel d'un fois. Quand on est sur la route, les équipes restent là. Mais on les voit pas. C'est rare qu'on les voit. C'est une couple de fois qu'on a vu les coachs. À un moment donné, j'ai vu Bruce Cassidy à Anaheim. Puis on était assis, je pense que j'étais avec Chris Rooney, puis il nous a payé un verre de vin. Tu sais, il n'y a rien de mal là-dedans. Il était assis au bar, puis après la game, puis il nous a payé un verre de vin. Alors, il n'y a rien de mal là-dedans. Puis c'est toutes des petites affaires. Moi, j'avais payé un verre à Dobinsky à un moment donné, à Columbus. Je pensais qu'il allait nous envoyer payer un verre, puis il n'est pas arrivé. Mais alors, je voyais en payer un, moi. Fait pas assez d'argent, moi, il en payait un. Puis, j'avais envoyé un verre. Merci pour le ton verre. Puis, il avait pas serré.
Puis, ma question va peut-être paraître bizarre, là, parce que je sais que les joueurs de la Ligue nationale doivent s'entraîner régulièrement en plus de leurs matchs respectifs, les 82 matchs plus les séries. Les gars s'entraînent constamment. C'est-tu la même rigueur que vous devez avoir, vous autres aussi?
Oui, exactement. On a un camp d'entraînement tous les années, au début d'année. Puis, quand on finit notre saison, on a reçu notre boss du conditionnement physique. Il nous envoie un email, il veut nous avoir à tel poids l'année d'après, tel pourcentage de gras. Puis écoute, on essaye de suivre ça assez à la lettre. Puis à cette heure, les gars, tu regarderas les gars depuis des arbitres qui sont gras, puis ils sont tout en forme. Puis ça s'entraîne. Moi, je m'entraînais 12 mois par année. Là. Je prenais peut-être 3 semaines off quand j'arrivais à la maison après la saison, puis je recommençais tout de suite après.
Mais vous êtes quand même surveillé au niveau de votre forme physique, votre patin aussi, j'imagine qu'il doit être, ils doivent porter une attention assez particulière à ça.
Absolument. Comme je t'ai dit, on a des cas d'entraînement. Quand on arrive à Buffalo pour le cas d'entraînement, on a les tests physiques, on fait le push-up, redressement assis, c'est là. Après ça, on fait le saut à longueur, on fait le bip. On peut le faire sur la glace ou à l'extérieur de la glace. Après ça, on fait le weight gate sur le bicycle. Puis, la journée d'avant, on voit tous les docteurs pour le cœur, les yeux. Ça a l'air qu'on est aveugle, non, c'est pas vrai. Alors oui, pour les yeux, les genoux, les hanches, on voit tout. Ça prend la journée, ça. Rien que pour voir les docteurs, les prises de sang. On fait toutes ces affaires-là. Puis, c'est après ça, le lendemain, on fait les tests physiques, puis après ça, le cas commence. L'application des règlements, les nouveaux règlements, on rencontre il y a plein d'affaires qui se passent.
Puis qu'est-ce qui arrive, Justin, si jamais vous n'êtes pas capable de passer au travers des étapes? Es-tu déjà arrivé à tes collègues ou à toi même de te faire dire, là, t'es pas assez en shape, on te donne 2 semaines de plus?
Non, moi, j'ai jamais vu ça. La seule affaire, si t'es blessé, si t'as une blessure, là, ils te font pas faire les tests tout de suite. Ils attendent que ta blessure se guérisse. Puis là, tu retournes à Buffalo pour faire les tests physiques avant de commencer la saison. Tu n'as pas le choix de les faire, les tests physiques, parce qu'il y a une règle là-dedans, il faut que tu fasses les tests physiques. Alors, mais j'ai jamais vu quelqu'un au camp d'entraînement qui s'est fait en virer parce qu'il était pas en forme.
Puis qu'est-ce qui détermine que l'âge de la retraite pour un arbitre est arrivé dans la Ligue nationale de hockey?
Écoute, plus ça, comme je te disais tantôt, on le disait tantôt, ça va vite. Puis veux pas, quand tu y es, le patin, tu slack en patin, là. Tu viens moins vite. Puis à un moment donné, la Ligue te rencontre à peu près, mettons qu'il te donne, tu rencontres la Ligue, il te dit telle année, je voudrais que tu arrêtes. Puis on signe des papiers, puis le port du test, c'est 5-6 ans. Alors, c'est comme ça que ça marche. Puis c'est correct, c'est ce qu'ils font, c'est merveilleux ce qu'ils font. Puis, tu sais, il faut être honnête avec nous autres aussi, là. Quand ça va vite, puis ça avance plus, puis là, t'es dans les rampes, puis. Tu dis, je vais anticiper, mais des fois, tu anticipes trop. Tu es parti, tu es rendu à l'autre bout, puis le jeu, il revient à l'autre bord.
Ouais.
C'est intense. Alors, faut être honnête avec nous autres aussi, puis il faut respecter ce que la Ligue veut. Puis
à la fin de ton contrat, tu le savais, ce qui s'en venait? Ils t'ont pas dit du jour au lendemain, Justin Saint-Pierre, c'est terminé pour toi. Tu savais qu'il te restait une coupe de matchs arbitrés?
Ben moi, j'arrête un petit peu à l'avance à cause de mon opération au genou. Ouais. Je me suis fait changer un genou en 2023. Mais écoute, oui, on le savait, puis je savais la date que j'allais arrêter, puis c'est correct, tu es capable de préparer ta dernière game, tu fais un party, tu fais des affaires.
Ouais. T'avais-tu une autre façon de voir la game quand tu savais que tu étais dans tes derniers matchs? Là, est-ce que tu prenais la peine de regarder la foule, regarder l'amphithéâtre, jaser avec les joueurs, puis tu savais que tu étais dans tes derniers moments? T'as-tu le privilège de faire ça?
Écoute, non, parce que je savais pas que j'allais arrêter en 2023. Ouais. Je pensais d'arrêter l'année d'après. Alors, ouais. Ça a été plus. J'ai pas eu. Tu sais, tu fais ta dernière game, les joueurs viennent te donner la main, tu choisis avec qui tu vas arbitrer, un peu comme ta millième game, tu choisis avec qui les gars tu vas arbitrer. Puis ça, malheureusement, je ne l'ai pas vécu. Puis je me suis fait un party de retraite absolument au Saguenay. Mais non, je n'ai pas vécu l'histoire de la dernière game puis à regarder dans la foule. Mais écoute, à tous les games que j'arbitrais, là, quand t'embarques sur la glace, il y a des places spéciales. Montréal, c'est spécial. Puis, parce que moi, il y a des jeunes qui gagnaient des concours dans le temps, l'année passée, il y a 2 ans, qui allaient faire le tour de la patinoire avec les gars de la Ligue nationale à Montréal. Puis, tu sais, je les appelais, moi, avec Yann. Je lui disais, écoute, va-t'en là-bas, va t'amuser, profite-en. Demande à tes parents, ils sont assis où. Puis quand tu patines en haut, fais 2-3 tours vite. Après ça, slack la cadence. Puis il dit, regarde tes parents dans l'estrade, fais-le un bye-bye, profite-en, amuse-toi, c'est important, il faut que tu le vis. Fait que ça, j'ai eu des bonnes discussions avec les parents et les jeunes qui allaient là aussi.
Quel entraîneur de la Ligue nationale de hockey t'a marqué le plus?
Dans quel sens?
Ben, dans le bon, mettons dans le sens positif, puis on ira dans le sens négatif par la suite.
Écoute, peut-être que vous allez trouver ça bizarre, mais j'ai eu Barry Trotz qui était tranquille. Barry, là, il coachait en agile dans le temps, puis quand il y avait de quoi, c'est parce qu'il se passait de quoi. Quand il chialait, c'est parce qu'il y avait de quoi, parce qu'il chialait jamais. Puis moi, j'ai eu une bonne relation avec John Tortorella.
Ouais.
John, là, je me suis pogné avec. C'était des F, puis des ci, puis des ça. Mais quand c'était fini. Il m'a regardé, are you done? I'm done. Fait que c'était fini, puis on passait à une autre étape. Puis ça, j'ai apprécié ça beaucoup parce que c'est bon. Parce que, écoute, tu veux pas être rancunier. Tu veux pas chicaner avec un gars, puis après ça, il est plus capable d'arrêter. Puis, tu sais, c'est plate dans ce temps-là, mais ces gars-là, comme John Tortorella, c'est un gars intense. Il veut gagner. Oui, il est rough avec ses joueurs, mais écoute, il fait le job. Je pense qu'on le voit ce qui se passe là, présentement là, à Vegas.
Y a-tu des coachs qui sont plus influents auprès des arbitres que d'autres? Parce que j'imagine que quand quelqu'un chiole tout le temps, l'arbitre n'est pas très réceptif. Là.
Absolument pas. Puis on lui dit, arrête de chioler. C'est même plus quoi de chiole. Fait que, là, ils veulent qu'on aille les voir, mais ça ne donne rien d'aller le voir. Tu vas chioler pareil. On sait que tu vas chioler. Fait que, comme je disais, l'exemple de Barry Trotz tantôt, Barry, si il t'appelait au baisse parce qu'il y avait de quoi? T'as regardé la vidéo après la game, tu dis j'ai manqué quelque chose, puis on y reparlait à la game d'après. Effectivement, oui, je l'ai manqué, puis c'est correct que tu nous le dises, mais c'est un gars qui ne chiolait pas. C'est rare qu'il chiolait.
Mais ça, c'est une séance d'automutilation quand tu regardes la game que tu arbitrais après, puis là, tu vois les coups que t'as manqués. Ça doit faire mal pareil, là.
Qu'est-ce que tu veux dire, des coups que manqués? J'en ai jamais manqué, non.
Mais, tu sais, ça va tellement vite. Nous autres, on trouve que ça va vite à la télé. Il y a quelques semaines, je suis allé voir un match du Canadien. On n'était pas encore en série. Je suis allé voir avec mon gars, puis on n'était pas très haut. On était à hauteur de la glace. Sacrifice! Ça va 100 fois plus vite qu'à la télé. J'ose pas imaginer des fois le stress que vous devez avoir quand... Tu sais, juste les juges de ligne, des fois, là, c'est des millisecondes. Là, puis des fois, ils se le font reprocher d'avoir callé leur jeu. Puis quand tu le regardes à reprise, hey, c'est au super ralenti, puis t'es pas sûr.
Ben, je pense qu'on a un bon exemple qu'on a eu sur le but de Caulfield le 2 jours.
Ouais.
Écoute, là, c'était pas gros, là. Puis tu sais, une chance qu'on a les vidéos à cette heure, ça nous aide.
Ouais.
Mais... Tu sais, je t'en reviens, c'est, oui, ça va vite, puis c'est spécial, mais nous autres, les arbitres, tu sais, les joueurs, les coachs, là, ils font des vidéos avec le joueur, ils regardent une séance de jeu qui s'est passée, quoi t'as fait ci. Les arbitres, c'est pareil. Des fois, on arrive à l'hôtel, on a des vidéos du boss, un email du boss avec les vidéos qu'on aurait pu faire un appel de punition, ou on aurait dû peut-être pas l'appeler. Fait qu'on regarde tout ça, on en fait des vidéos à tous les semaines, on a des vidéos, on en reçoit des vidéos, puis je pense que c'est comme ça qu'on s'améliore. Si les coachs le font avec les joueurs, parce qu'ils vont avoir une façon de s'améliorer, mais les arbitres, c'est pareil. Vous pensez, je veux pas que le monde pense que les arbitres, on est assis là, puis on fait la game, puis on s'en va à l'hôtel, puis il se passe plus rien, là. Non, pas du tout. On a un travail à faire, on le fait le travail la journée de la game, on regarde c'est qui commence, c'est qui va être habillé, qui va jouer à des avantages, qui va jouer à un avantage, qui va garder les buts, parce que tous les gardiens sont différents. Alors, on fait toute une job pendant la journée de la game, puis le soir ou le lendemain, on a reçu des vidéos. Puis quand on reçoit pas de vidéos, tant mieux, mais il n'y a rien de mal à recevoir des vidéos de call manqué ou d'un call qu'on n'aurait pas dû faire. Ouais,
mais ça doit faire mal à chaque fois quand tu le vois. Là, quand tu le regardes à la télé, tu te dis « Ah ben ouais, j'ai raté ça, mais il semble que c'était évident. » Mais de l'angle où toi, t'es, c'est pas le même angle que l'angle que la caméra, là.
Absolument, absolument, oui, puis tu sais, je veux pas que le monde pense que si on a manqué un call, on est content, on arrive dans la chambre le soir, c'est pas grave, on l'a manqué, on s'en veut, on veut pas en manquer des calls. Je pense qu'on fait partie des meilleurs au monde, puis c'est pas pour rien, puis on veut pas manquer les calls. On veut que ça soit fair pour la game, puis on appelle les punitions qui sont là.
Ouais. Tu nous as parlé de trois joueurs là, qui étaient des super vedettes dans la Ligue nationale de hockey. Ovechkin qui l'est encore, Mario Lemieux, Wayne Gretzky. Puis je te demandais, en tant que fans de ces gars-là, t'avais-tu de la difficulté à les arbitrer? Tu me dis non. Y a-tu des joueurs qui t'ont marqué de façon positive ou négative au niveau des relations avec les arbitres?
Écoute, moi, c'est, au début, quand j'ai commencé, Sidney n'était pas toujours facile. Puis on s'est parlé, j'ai parlé, puis après ça, c'était le jour puis la nuit, puis on a eu une bonne relation. Quand Sidney avait de quoi me demander, il me parlait, puis il me le demandait, puis j'y répondais, puis il n'y a aucun problème avec ça. Du point négatif, écoute, oui, il y en a, ça n'a pas tout le temps été facile. Du coup, on n'a pas toujours des bonnes relations avec les joueurs. On essaye d'en avoir, mais c'est pas toujours évident. Éventuellement, ça chiale, puis quand on les colle, puis même des fois, je colle un slash, puis les joueurs me disent, voyons, c'est pas moi qui ai fait ça. Ben, il dit, va t'asseoir, parle à ton bâton, parce qu'il y a quelqu'un qui a donné un coup de bâton quelque part. Si c'est pas toi, c'est ton bâton. Ben, il dit, parle à ton bâton. C'est normal. Les joueurs, ils veulent se défendre, puis ils veulent avoir les réponses. Puis c'est à peu près ça.
Puis quel joueur qui chialait tout le temps, là, à chaque fois que tu arbitrais?
Ben, écoute, on a différentes. Moi, j'ai avec Markov à Montréal, j'ai eu de la misère. À un moment donné, il commençait à me parler en russe. Là. Je parlais en français. C'était Gianta qui était capitaine d'ici, qui se passe ici. Là, je ne sais pas, il parle en russe. Là. Je ne parlerai pas en russe, je ne parle pas le russe. J'ai parlé en français, puis là, il riait. Tu sais, c'est des affaires de même. Puis Markov n'était pas facile. Ce n'était pas un gars que tu ne pouvais pas jouer avec. Ce n'était pas un gars. Je ne sais pas s'il était malheureux, mais en tout cas, il n'avait pas de la compter très, très souvent.
Ouais, puis au niveau de la langue, est-ce qu'il y a une loi non écrite dans la Ligue nationale? Est-ce que tu dois jaser avec les joueurs toujours en anglais ou quand tu rencontres des joueurs québécois, tu peux leur parler en français?
Non, mettons qu'on est tout seul avec un joueur québécois au début de la game, on patine en rond, puis on est tout seul avec, là, on jase en français, il n'y a pas de problème, mais okay. Une question d'aller au banc des joueurs aussi. Il y a un capitaine français, puis il y a un capitaine anglais, il faut que ce soit en anglais parce que l'autre, il ne comprend pas, puis. Ça, c'est frustrant pour les autres aussi. Puis les coachs qui parlent en français, ça m'est arrivé une couple de fois avec un coach français, puis là, il voulait me parler en français, mais là, j'ai répondu en anglais parce qu'il n'y a pas personne qui répond. Il n'y a qui comprenait. Il n'y a pas personne qui comprenait sur le banc, puis c'est pas fair. Je pense que c'est pas fair. C'est pour ça que la Ligue, ils veulent que ça se passe toujours en anglais. Il y en a beaucoup qui disent « Pourquoi vous ne collez pas les punitions en français à Montréal? » J'oublie ça, on collera même les punitions à Montréal en face. C'est impossible.
Les bagarres, Justin, ça fonctionne comment au niveau de l'arbitrage? Là, je comprends que c'est souvent les juges de ligne qui mangent les coups, puis vous autres, vous prenez des notes. Là. Mais quand tout le monde se bat, moi, je vois régulièrement des arbitres maintenant intervenir pour prendre le troisième homme, parce que les deux autres juges de ligne sont pris avec des joueurs. C'est arrivé, si je ne me trompe pas, v'là deux matchs avec le Canadien. Il y a eu un échauffouré, puis là, ben, les arbitres s'en sont mêlés. Ça fonctionne comment pour vous autres dans la Ligue nationale? Est-ce que vous avez le droit de vous impliquer physiquement ou c'est en dernier recours?
Oui, on a le droit de s'impliquer physiquement, mais pas les deux. Je pense qu'il faut tout le temps un arbitre qui reste en retrait parce qu'il y a tout le temps quelque chose qui se passe à quelque part. Quand les 10 joueurs se pognent sur la glace, là, oui, les deux judonnés, on n'a pas le choix d'aller les aider. Ça prend quelqu'un pour embarquer un peu, puis tu vas voir bien souvent les gars, ça siffle, puis je le dis à mes jeunes qui arbitrent, ils disent utilisez votre sifflette. Quand il y en a deux qui se pognent, là, va-t'en à côté de ses oreilles, puis là, on fait un beau coup de sifflette, puis tu te le dis qu'il va virer de bord, puis il va s'en aller. Fait qu'on le voit souvent, les arbitres, ça siffle, puis à un moment donné, les gars, ils viennent écœurer, fait qu'ils arrêtent, je pense. Puis ça prend tout le temps l'arbitre qui reste en retrait parce que tu veux voir c'est quoi qui se passe. Tu vas avoir une belle vue de l'ensemble parce qu'il y a tout le temps un petit coup de salaud qui se passe en arrière du jeu. Ben non, les deux dans le fond, on va te bien avoir un petit coup de bâton en arrière de la tête, un coup de poing en arrière de la tête. Alors, ça prend tout le temps un arbitre qui reste en retrait pour voir la situation.
Puis toi, Justin, t'étais-tu celui qui prenait des notes ou celui qui s'impliquait physiquement?
Ben, ça dépend. Je me suis impliqué physiquement, mais il faut que tu sois prudent aussi là-dedans. Mais oui, je me suis impliqué physiquement. Quand il y a deux, trois bâtons en même temps, il faut que tu embarques. Puis je suis ramassé sur le vent la matinée avec deux joueurs. Puis j'ai couché sur le vent, mais j'ai été séparé.
Ah, c'est assez weird des fois parce que les gars, des fois, les gars, ils ont des gilets par-dessus la tête, ils voient pas où ils frappent, et ils frappent les juges de ligne. Je veux dire,
ah oui. Hey, c'était peurant, ça vient peurant à un moment donné. Là. Ouais. Puis, c'est pas fou des gars. Fait que, mais tu sais, des fois, les juges de ligne, il y a beaucoup de communication là-dedans dans le bateau. Les juges de ligne, ils nous demandent Vas-tu tanné? On embarque-tu? Non, pas de suite. Attends un peu. Fait que là, les gars, ils attendent. OK, on embarque, les gars. Puis là, des fois, les joueurs le disent. On finit. Fait que les gars, ils embarquent, puis ça part.
Ouais.
Beaucoup de communication là-dedans.
On sait que les arbitres sont toutes contre les bagarres, là, mais y a-tu des bagarreurs qui t'ont impressionné durant toute ta carrière dans la Ligue nationale?
Bon, il y en a eu Donald Brochier, c'était tout qu'un batailleur.
Ouais.
Simpson, Bogart, qui s'est battu pas mal, était héros, puis était. Après ça, j'ai Deslauriers. Deslauriers qui joue encore. Deslauriers, c'est débile comme un baseball. Là. Je sais pas, il est fait en caoutchouc. Après ça, il y a Olivier à Columbus.
Ouais, Mathieu Olivier.
C'est Mathieu Olivier. C'est tout que le bâton hier. Ces gars-là, c'est incroyable. Là. Des fois, tu te dis, voyons, non, il va tomber, c'est sûr. Mais non, il revient comme une bobolette. Il repose la tête, il fait ça, mais il repart. Hein. Il revient encore.
Puis comment ça se diffuse, l'information? Bien sûr que les joueurs se jasent pendant la mise au jeu, mais est-ce qu'on vous avertit avant qu'il va probablement y avoir un combat ou vous le constatez quand ça arrive?
C'est rare à ce temps qu'ils disent, mais on connaît notre alignement, on sait qui joue contre qui va se pogner. Puis normalement, quand les deux se ramassent à la glace puis il y a une petite affaire, c'est sûr que ça va se pogner. Oh ben non, les gars, ils s'en regardent, on les voit, les gars, s'en regardent, puis ils se disent, OK, on va y aller. Fait que, mais c'est rare que les joueurs nous disent, oh, on va se pogner ce chiffre-là. Là. Je me rappelle pas d'avoir vu ça.
OK. Bon, quand ça arrive, là, mais de votre point de vue, là, quand ça. Est-ce que la Ligue nationale de hockey et trouve que les bagarres, ça fait partie du jeu? Parce que ça ferait longtemps qu'on aurait pu enlever ces bagarres-là. Des points de vue, mettons, des arbitres, tu parles pour tous les arbitres de la Ligue nationale de hockey, là. Les gars, sont-ils pour les bagarres? Est-ce qu'ils considèrent que ça fait partie du show?
Écoute, absolument. Je pense qu'une bagarre au hockey, ça fait partie du show. Puis je pense que ça l'enlève même. Tu sais, des fois, on voit apparaître si vite, tout le temps des poussées, des ci, des ça. Des fois, une bataille, ça calme les affaires, puis ça fait du bien, puis... Bien souvent, quelqu'un de bataille, après ça, ça joue au hockey puis ça y va. Il peut avoir une ou deux, trois batailles par game, c'est correct. Je pense que ça fait partie du hockey. Je pense que ça. Tu sais, il n'y a pas de bataille au football, mais une chance qu'il n'y en a pas, là, mais ça frappe autant que le hockey, le football. Mm-hmm. Mais je pense qu'une bataille, ça fait comme calmer l'intensité là, d'une game qui tout le temps après s'y fait des coups de poing, des coups de hockey, des mains en face, puis je pense qu'une bataille dans ce sens-là, ça fait du bien.
Pour un arbitre, ça se peut-tu des fois qu'il y a un joueur qui prenne en grippe puis que le cahier de jeu avec lui est différent de tous les autres joueurs? T'sais, puis là, je vais te cibler un joueur à Montréal. Là. J'ai l'impression que ça en prend pas gros à un arbitre pour envoyer Jack Eye au banc de deux minutes comparativement à peut-être un autre joueur qui, lui, prend jamais de pénalité mais qui fait le même geste. Lui, on va le laisser passer deux, trois fois avant de donner une pénalité. Ça arrive-tu des fois que vous avez des joueurs en grippe? Techniquement, vous n'avez pas le droit de le faire, mais j'imagine que l'humain est humain. Là. S'il y en a un qui attire un peu plus ton attention, tu vas le voir. Là.
Écoute, on n'a pas de joueurs en grippe, absolument pas. Nous autres, on a un travail à faire, puis oui, on connaît nos. Faut connaître nos joueurs, faut les connaître les joueurs, parce qu'on sait qui peut brasser plus, lui qui va brasser moins, tout ça. Mais personnellement, on n'a pas de joueur en grippe. Jacky, moi personnellement, je ne pense pas qu'il est plus puni que d'autres. Mais quand il est puni, c'est parce qu'il le mérite. Absolument. Puis je ne suis pas capable de me rappeler. Y a-tu quoi qui a pas mérité? Je ne m'en rappelle pas. Mais moi, je pense que quand il est puni, Jacky, c'est parce qu'il le mérite. Puis il a changé Jacky aussi. Là. Je pense qu'il a compris le message. Puis peut-être que Martin y a parlé, je ne sais pas. Mais dans les séries, il n'a pas pogné de gros de punition. Puis il a joué contre Buffalo, il a joué contre Tampa. Alors, personnellement, moi, je ne peux pas dire, puis je suis un gars assez honnête, je te le dirais, mais quand on embarque sur la glace, là, les joueurs sont tous au même niveau, sont tous à la même place pour les arbitres. Puis je pense qu'on colle, c'est qu'il faut coller, puis on est là pour faire appliquer les règlements aussi.
On remonte un peu plus loin, mais t'as arbitré contre Chris Pronger?
Oui. Chris, oui.
C'est un gars qui n'était pas un doux, là. J'avais l'impression des fois que puis il avait de l'air sympathique sur la glace, là, mais j'ai l'impression que pour les arbitres, Chris Pronger, il avait le droit de faire bien des affaires avant d'être sorti, là. Mais c'est juste dans notre tête, ça.
Je pense que ça fait longtemps aussi, là. Je pense que Pronger, moi, quand je suis arrivé, il était là, puis... Je pense qu'on le collait. Oui, Pronger, dans le temps, il donnait des cross-checks quand il avait du but, c'était débile. Là. Ben écoute, regarde chez Weber à Montréal.
Même affaire.
On peut le mettre dans le même traîneau parce qu'il va dire la pêche avec son bâton. Puis des fois, j'allais voir, il disait slack un peu pédale. Il dit, tu me donnes les 3-4. Puis je passais le message, j'étais un brique, le prochain, je vais peut-être y aller. Là. Fait que écoute,
c'est comme ça que vous établissez la limite. C'est qu'à un moment donné, tu vas voir le joueur et tu dis là, regarde, là, c'est correct, là, mais un peu plus fort, c'est fini, je te sors.
Non, ben absolument pas, mais on est capable de passer le message. Mettons qu'il y a un gars qui s'en va avec le rondelle, puis le bâton, il a le bâton ou les hanches, mais il touche pas au gars. Il est proche, mais on le colle pas. Nous autres, on est capable d'aller voir le joueur et dire, hey, ton bâton, il était proche, là. La prochaine fois, si tu mets ton bâton là, si tu y touches, tu vas te faire coller, c'est sûr. On est capable de le dire, de faire attention, parce que à cette heure, normalement, avec les nouveaux règlements, tout ça, tu mets le bâton à hauteur des hanches, là, tu as plus de risques qu'il va y avoir un hook à quelque part, un accrocheur à quelque part. Mais si tu mets pas ton bâton là, il n'y en aura pas de risque. De risque, il n'y aura pas. Fait que, des fois, on est capable de passer le message, fais deux, trois fois que tu mets ton bâton à hauteur des hanches. Fais attention, parce que si tu pognes le gars à cette place-là, ça peut arriver que tu te saisis au banc. Ça, on est capable de passer le message. Puis ça, je pense que c'est une bonne relation qu'on fait avec les joueurs. Puis les joueurs respectent ça aussi. Fait que c'est important d'avoir une bonne communication.
Justin Saint-Pierre, tu as fait 1200 matchs comme arbitre dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que tu as vu un changement au fil du temps avec les nouveaux règlements qui arrivaient, la vitesse qui augmentait? Parce qu'avec moins d'accrochage, on parlait de Mario Lemieux puis Wayne Gretzky, là, quand on regarde sur YouTube des vidéos de Mario Lemieux, là, puis on se dit, mais ça n'avait pas de bon sens à quel point ce gars-là se faisait accrocher puis il continuait d'avancer quand même. Est-ce que la Ligue nationale de hockey peut encore plus évoluer au niveau de ses règlements? Puis est-ce que la vitesse peut encore augmenter? Parce que quand on regarde un Connor McDavid, là, c'est un étoile filante à la glace, là.
Un train, ça. Écoute, la vitesse augmentée, probablement que c'est possible, mais là, rendu à. Ça colle déjà, puis je pense que ça chiale. Fait que, ils vont faire quoi? Je ne sais pas c'est quoi qu'ils peuvent changer. Peut-être des règlements, mais là, ça colle les accrochages. Oui, tout le monde dit que des séries, ça colle moins, mais je ne suis pas prêt à dire ça. Si vous regardez la première ronde, la deuxième ronde, puis plus les rondes vont avancer, moins il y a de punitions, parce que les joueurs, ils comprennent. Puis là, ça va plus vite. Les meilleures équipes, normalement, les meilleures équipes se ramassent à la fin. Puis, écoute, je l'avais dit, je me rappelle plus à qui, il n'y aura pas de grosse punition contre Caroline, là. Montréal sont vite, Caroline sont vite. Ça va. La seule affaire, il n'y aura pas les punitions qu'il va y avoir contre Montréal ou la Caroline, ça va être du trébuchet, du hook, du accroché. À part de ça, il n'y a pas de grosse punition, là, contre la Caroline de Montréal, là.
Bon, là, je pense que je vais
Oh, là, j'étais en train de. Pour moi, je t'ai vu faire à la face.
Là, je vais t'ostiner. Là, je vais t'ostiner. Moi, j'ai l'impression que dans certains moments, surtout en prolongation, les arbitres ont une petite tendance à garder le sifflet dans les poches. Mais je suis le seul à penser ça au Québec, là, qu'en prolongation, les arbitres ont une petite tendance à garder le sifflet dans les poches. C'est-tu un non-dit ou c'est parce qu'exactement ce que tu mentionnes, c'est que les gars, au fur et à mesure que les séries avancent, ils comprennent puis ils savent jusqu'où ils peuvent aller sans que l'arbitre siffle?
Absolument, puis tu regarderas la première ronde. Les premières rondes, dans toutes les. Partout. La première ronde est tout le temps plus rough que les autres. Tout le temps, tout le temps. Plus tu montes dans les rondes, moins il y a des punitions. C'est pas parce que les arbitres comptent moins, c'est parce que les joueurs, ils ont compris. Puis les joueurs veulent. Puis je te dis pas qu'ils veulent pas gagner en première ronde, mais plus tu montes, plus tu veux gagner encore plus. Puis c'est pour ça. Puis écoute, en overtime, il y a eu des punitions en overtime cette année, là. En série, ça prend une punition. Il faut qu'elle s'envoie là, la punition. Puis on veut pas aller, tu sais, guesser. Ah, il y a un 2. Quand tu connais un 2, même pendant les séries, puis dans la saison régulière, il faut que tu sois sûr que ça soit un 2. Il faut que tu sois à 200%. Puis on se l'est déjà fait dire. Tant qu'à caller, puis tu n'es pas sûr, laisse-le là, la punition. Colle-le pas. J'aime autant que tu la laisses là. Parce que si tu fais une punition qui n'est pas une punition, puis un but qui se colle là-dessus, c'est là que ça va être le déluge. Mais tant qu'à ça, si tu n'es pas sûr à 200%, laisse-le la punition, puis ils vont vivre avec. Ils ont plus de facilité de vivre avec un call que tu n'es pas sûr de l'avoir vu, puis tu le calls pas, que si tu n'es pas sûr à 200%, puis tu le calls, puis si tu n'as pas de punition, là, ça peut faire des affaires. Ça va parler plus.
T'as-tu déjà pris des. T'as-tu déjà donné des punitions que tu t'es dit, tabarouette, j'aurais jamais dû donner cette punition-là, je me suis mis dans l'embarras?
Absolument, absolument. Écoute, on est des êtres humains, on va en manquer, puis on va en faire, mais dans ce temps-là, le coach t'appelle, il te parle, puis moi j'avais dit, c'était Todd McLean qui était à Saint-Nosé. Todd m'avait parlé, il dit, Todd, écoute, je vais regarder une vidéo, puis mais que je t'envoie sur la route, je vais venir te voir. Et effectivement, j'avais regardé une vidéo, puis c'était pas un 2. C'était une punition, ça n'avait pas de rapport. Puis je suis allé le voir, il dit, Todd, j'ai regardé une vidéo, puis il avait absolument raison. Puis sais-tu quoi? Ça, c'est encore la communication, un respect. Puis il m'a dit en affaire, McLean, après ça, il me parlait, mais il m'a même réécœuré de ça. Puis ça a été les coachs apprécient ça. Pour être honnête, il faut être capable de donner notre version aussi. Puis ça arrête un 2, j'aurais dit, écoute, Doug, ça revient à demain ou à soir. J'ai déjà la recasse, cette punition-là, c'est sûr et certain, parce que c'était un 2. Mais effectivement, c'était pas un 2, il fallait choisir un mètre avec. Puis je dis, regarde, c'était pas un 2, puis ça fait partie de la game.
Les fameuses punitions, peut-être que tu seras capable de me le traduire en français, là. Moi, je l'ai en anglais, l'embellishment, là.
Plongeon,
puis même quelqu'un qui feint d'avoir reçu un coup de bâton d'en face, puis là sa tête part par en arrière, puis là il se tire à terre. Ça doit être aussi très dur à juger en tant qu'arbitre. Là. Un embellishment, j'en ai pas vu beaucoup cette année. Là. J'en ai vu avec Lane Hudson qui, effectivement, a exagéré son geste pour montrer à l'arbitre qu'il tombait. Mais ça aussi, ça doit être particulier à donner, là.
Ben, je pense que la situation que tu me parles, les deux situations, que le gars il se pointe la tête, parce que des fois, on le voit pas si le gars il a été touché dans la face, puis c'est dur à coller. Mais Lane Hudson, là, le bâton, il était pas haut, là, puis l'arbitre était en arrière. Là. Ah ben, il était en avant, je pense. Là. Je me trompe pas, c'était Charon. Puis il l'a dans la face. Le bâton, il est aux hanches. Puis un gars qui joue dans la Ligue nationale, qui se fait accrocher aux hanches de même, tu peux pas tomber comme ça.
Non.
Si tu tombes comme ça, retourne dans l'ESCO, ça retourne dans la Ligue américaine et marque de quoi sur ton patin. C'est impossible. On n'est pas des colons, on sait comment que ça marche. Là. Fait que, écoute, il n'a pas hésité, puis il l'a collé, puis il faut pas. Puis je pense que vous avez vu au début de la période, quand la période a recommencé, Lane Hudson est venu, puis il s'est excusé. Il dit, regarde, je m'excuse, il dit, je t'ai fait passer pour. C'est ça. Mais regarde, c'est important pour les joueurs. Il faut que les joueurs le savent parce que. Tu sais, les joueurs qui plongent tout le temps, là, on les connaît aussi, nous autres, les arbitres.
Ouais.
On a un travail à faire, comme je te dis depuis tantôt. On a un travail à faire, puis ces gars-là, on sait c'est qui. Alors, c'est important pour un joueur qui commence pas ça, parce que, écoute, puis je te dis pas qu'il va se faire coller à tous les fois, mais s'il commence ça, c'est sûr qu'il va y avoir des choses qui vont chialer à des places, parce qu'on vient qu'on sait plus. On sait plus. Y a-tu plongé, y a-tu pas plongé? Parce que si tu plonges tout le temps... Fait que c'est là que ça vient difficile pour un arbitre aussi, là. Écoute, c'est pas toujours évident. Puis on veut pas coller un 2 quand le gars il a plongé, absolument pas.
Puis est-ce que vous en parlez entre arbitres? Là, j'essaie de rentrer dans votre secte des arbitres. Là. Y a-tu comme un conseil des arbitres où là vous parlez de certains joueurs qui font justement des trucs sur la glace qui n'ont pas de Christi de sens pour essayer de... Tu sais, lui, là, quand il est sur la glace... code rouge. Lui, quand il est sur la glace, jamais de problème, code vert. L'autre, des fois, on n'est pas sûr, code orange. Ça arrive-tu, ce genre de relation-là, en comité? Est-ce que vous vous parlez entre vous autres?
Écoute, des codes rouges, puis des codes verts, des codes de même, non. Mais on est capable de se parler au début de la game, dans la chambre des arbitres. On a un travail à faire encore. On arrive 1h30 avant la game, on se prépare, on fait notre training, après ça, on s'habille. Puis ça, on en parle. On en parle. On regarde, on a reçu les line-up, on regarde qui joue, puis on en parle. Lui, il plonge plus facile, il plonge plus vite que les autres. Il est plus mou, il patine moins bien parce qu'il plonge tout le temps. Fait qu'il doit avoir de la misère avec ses patins, peut-être, on ne sait pas. Mais regarde, on en parle absolument. C'est important. Là, regarde, là.
Mais ça, te voir Justin Saint-Pierre aller voir un gars dans la Ligue nationale qui n'arrête pas de plonger et dire tu as de la misère avec tes patins? Si t'as de la misère avec tes patins, retourne dans East Coast. As-tu déjà eu ce genre de commentaire-là avec les gars?
Peut-être que t'as de la misère avec tes patins, ça se dit, là, mais pas dans East Coast. Tu dis pas ça un joueur dans l'ISL.
Parce que...
Non, mais écoute, les messages, on est capable de les passer. Puis voyons donc, comme je te dis tantôt, ça se peut pas qu'un gars tombe de même qui joue dans la Ligue nationale, là, voyons.
Non, c'est ça.
Je te dis, là, on parle d'Hudson parce que c'est arrivé, mais il y en a plein d'autres, d'autres équipes là, qui sont faciles à faire tomber.
Oui. La technologie s'est grandement améliorée dans tous les sports. Qu'est-ce qui fait en sorte que dans la Ligue nationale de hockey, c'est une business de plusieurs milliards de dollars, là, la Ligue nationale de hockey, qu'est-ce qui fait en sorte qu'il n'y a pas une puce électronique dans la rondelle qui dit si la rondelle était dans le but ou si elle ne l'était pas, ou si c'était un hors-jeu ou si ça ne l'était pas?
Écoute, je pense qu'ils l'ont déjà essayé, si je ne me trompe pas, parce qu'à un moment donné, on avait des rondelles, puis nous autres, des fois, ça en ramassait des rondelles après les games, puis tout ça, mais ça, on ne pouvait pas parce qu'il y avait une puce dedans, puis on n'avait pas le doigt, puis même si on partait avec la rondelle, il était capable de l'avoir si on l'avait dans la chambre d'hôtel. on les laissait là. Puis, écoute, ça a déjà arrivé. Je ne sais pas c'est quoi qui s'est passé, pourquoi ça n'a pas marché. J'ai aucune idée. Mais ça va-tu venir? Hey, à cette heure, ils font ce qu'ils veulent. Ça va sûrement quelque chose qui va sortir à un moment donné. Puis, ça va arriver, mais quand? Je peux pas te répondre à ça, je sais pas.
Parce qu'il y a des angles de vue qui sont impossibles. Je pense que c'est le dernier match. Dobesh a fait un arrêt. Il a comme atterri sur la rondelle, puis il reculait dans son but, puis ouais. Il a pris ses bras. Tu sais, la rondelle, on ne sait plus où est-ce qu'elle est. As-tu traversé la ligne? Es-tu revenu? On ne le sait pas. Puis l'arbitre ne peut pas le voir parce que c'est en dessous de ses pads. Fait que je me disais, avec une puce électronique, ça le dit si c'est dedans ou si ça ne l'est pas. Là.
Probablement que ça le dit. Puis comme je te dis, c'est-tu des exemples de même qui vont aider à la ligue de pousser plus pour aller voir ça? C'est quoi l'avantage? C'est quoi qui se passe? Mais faut que tu sois sûr que la puce marche tout le temps. Hein. Tu sais, si la puce, elle marche la moitié du temps, puis... Il y a un but de même de l'autre bord, puis l'autre bord, après ça, tu vois plus la puce. Là, il y a quelque chose qui va. C'est sûr que la puce, elle va sortir de la rondelle. Là. Il n'y en aura plus après. Là. Parce que l'équipe, qui l'ont, ils n'auront pas été capables de le voir, là, ça va chioler. Là.
Ouais.
Fait que, tu sais, il faut que tu sois sûr que tout marche. Là.
Je t'ai parlé de Dobesh, mais on t'a pas arbitré pendant que Dobesh était sur le jeu. Mais y a-tu des gardiens de but dans toute ta carrière, dans tes 1200 matchs, qui t'ont impressionné en disant tabarouette, je pensais jamais voir ce style de gardien de but-là, ce style de performance-là? C'est, pour ma part, j'ai jamais été dans le show comme toi, tu l'as été. Mais des gardiens de but marquants, bien sûr que pour moi, en tant que Québécois, il y a eu Patrick Roy. Mais si tu me demandais. Lequel était le plus impressionnant à voir? C'est celui qui n'avait pas de style. En fait, c'est celui qui avait son style, c'était Dominique Hašek.
Oui, absolument. Dominique, je l'ai vu. Puis oui, c'était un bon gardien, mais il se tirait un peu partout. Ça faisait la job. Fait continuer de tirer partout, ça fait la job. Hey, on a eu Martin Brodeur. Martin Brodeur. Un goaler, ouais. Hey, Martin Brodeur, quand il sortait dans le coin, aller chercher à pas, quand il sortait sur l'autre bord, là, hey, il a fait des passes là, d'un bout à l'autre, puis c'est la ligne bleue, puis le gars partait en échappé. Là. Ça a arrivé une couple de fois. C'est tout qu'un gardien de but. Après ça, on a eu Roberto Luongo à Vancouver, ouais, qui a fait des miracles et il a sauvé cette équipe-là, je ne sais pas combien d'années. Tu sais, on a eu plein de gardiens de but. Ryan Miller, qui était pas mauvais à Buffalo, il faisait la job.
Mais ton préféré à toi, ah, là?
Personnellement, mon préféré, c'est Brodeur.
C'est Brodeur, oui.
Parce qu'il arrêtait des rondelles, tu disais, voyons donc comment il a fait ça. Ça se peut pas. Et puis... juste sortir la rondelle de la zone, c'est ce qu'il faisait avec la rondelle, là, c'était incroyable.
Puis c'était ça un gentleman, Martin, avec les arbitres?
Absolument. Mais les gardiens, là, ils parlent pas beaucoup.
Non.
Ben, moi, Carey Price, j'ai dit deux fois un salut à un moment donné, puis il faisait un signe de tête. Donc, c'est quand même qu'il a tout de parler. Je pas de parler, moi, aller parler à l'autre bord. Mais écoute, c'est des goalers, c'est comme de. Ils sont plus en train dans le bulle, puis ils font leurs affaires. Il y a Marc-André Fleury, lui, c'est jour et nuit. Marc-André Fleury, il fait un arrêt, puis il crie, puis il chante, puis il fait tout ce que tu veux. Puis hey, Marc-André Fleury, c'était tout qu'un gardien aussi. Là. Je l'ai oublié, lui. Puis, hey, c'est un gars qui va autant de la renommée, absolument. Ça,
persuadé. Puis, et vous niaisais-tu sur la glace un peu, les arbitres, Marc-André?
Ben oui, tu sais, il riait. Il est tout le temps sourire au lèvres, il rit. Puis après ça, quand il fait un save, là, wouh, il crie, mais c'est là. Ben, il a fait un bel arrêt. Tu sais, c'est un gars qui est animé. Puis je pense qu'on le voit avec tous les coups qu'il a fait dans les chambres à Pittsburgh, au Minnesota. Il fait tout le temps des coups de cochon, puis il n'arrête pas. C'est un gars que je pense que les gars aiment bien ça jouer pour lui.
Les salaires pour ce qui est des arbitres dans la Ligue nationale de hockey, bon, t'as évolué pendant plusieurs années. Fait que j'imagine que ton salaire a changé au fil du temps, mais ça peut ressembler à quoi, les salaires des arbitres dans la Ligue nationale?
Écoute, ça va avec l'année d'expérience. Quand j'ai commencé dans la Ligue, j'étais moins haut, puis tu montes à tous les années, puis... On a une convention collective qu'on signe aux 4 ans. Alors, ça va avec les conventions. On a un fonds de pension. On a tout. Oui, on a des bons salaires, absolument. Puis, on n'a pas à se lamenter sur le salaire.
Mais c'est-tu un 100 000? C'est-tu un 200 000? C'est-tu un million?
On fait 10 millions par an. Non, c'est pas vrai. 10 millions sur 4 ans. Non, non, non. Écoute, oui, ça passe le 100 000, absolument. Tu sais, je ne veux pas parler de prix, mais écoute, oui, on est. C'est comme je te dis, moi, quand j'ai commencé la première année, je pense, dans la Ligue américaine, j'étais dans East Coast, j'étais à 20 000, 25 000. Puis ma première année, quand j'ai signé le contrat avec la Ligue nationale, j'ai fait de la Ligue américaine, puis j'ai tombé à 140 000.
Okay.
Et puis, ça fait un bout, là. Fait que quand j'ai tombé à plein temps, encore là, le plein temps, il est plus haut. Alors, on fait des bons salaires, puis ça passe le 200 000 comme il faut.
Puis est-ce que c'est toutes dépenses payées, l'hôtel, la nourriture? Vous devez avoir un peu d'argent de poche aussi là-bas?
On a des per diems, l'hôtel est payé, les avions c'est payé, on a des per diems, on a un auto, l'auto est payé, on prend un taxi, un car, une limousine, ça c'est payé. Tout est payé. Quand on est sur la route, là, on ne dépense pas de notre poche. On est payé à peu près aux 2 semaines. Les expenses y arrivent aux 2 semaines à peu près. Alors, on ne dépense pas de notre poche, absolument pas.
J'imagine que le temps où tu t'entraînais, puis le temps où tu étais dans le show, ça, c'était du temps qui était très agréable. Est-ce que c'était long? Est-ce que vous étiez constamment dans l'attente des matchs? C'est-tu long comme job?
Ben, c'est pas que c'est long, c'est parce qu'on voyage tellement. Moi, je couche à peu près, ben, les arbitres encore là, ils couchent à peu près, peut-être un petit peu moins pire présentement, mais on couchait entre 4 à 5 soirs par mois à la maison. On était sur la route à part ça. Parce que ce qui arrive, c'est des fois, tu partais sur la route 14 jours, mais tu avais game, une journée off, game, une journée off, game, une journée off. Fait que la journée off, c'est t'apprenais pour voyager.
Ouais.
Tu voyageais dans ce temps-là. Puis si tu avais des back-to-back, mettons, samedi, vendredi, samedi, on restait normalement dans la même ville ou on changeait de ville. Fait que quand on défait nos valises dans la chambre d'hôtel, c'est pour un soir ou deux maximum. Tu sais, au baseball, ils sont là pour 4-5 soirs. C'est moins pire un peu, mais souvent, là, tu ouvres ta valise. Moi, si j'habiterais à Montréal le vendredi puis je suis à New York le samedi, j'ouvrais mon suitcase le vendredi matin, je faisais la game le soir, j'arrivais à l'hôtel, je repactais mes affaires. Pour le lendemain matin, j'ouvrais ma poche d'arbitre, je faisais sécher, je repactais ma poche d'arbitre à 4h le matin. Je m'en allais à l'aéroport, j'arrivais à l'hôtel à New York. Là, j'ouvrais mon suitcase, j'accrochais mes habits dans le garde-robe. Je rouvrais ma poche d'arbitre parce que des fois, c'était pas tout sec. Puis là, je changeais mes sous-vêtements pour la game du soir.
Quand tu es jeune homme, c'est pas si pire, là, mais quand tu commences à vouloir avoir une conjointe, une famille et tout ça, ça doit commencer à être compliqué parce que là, toi, tu vis tout le temps dans tes valises, c'est bien plate, mais tu es quand même dans le show, tu manges dans les meilleurs restaurants, puis ta blonde t'appelle pour te dire que ton jeune est malade, puis qu'il n'a pas dormi de la nuit, puis qu'il est brûlé. Ça doit être raide aussi pour vous autres.
Ben absolument. Puis écoute, on s'est fait appeler, puis on disait la petite est malade, puis tout ça, mais. Tu sais, d'un autre sens, je me disais, je peux faire quoi? Je peux pas faire grand-chose. Puis, je suis à la maison, je peux pas appeler mon boss dire à moi qu'elle soit une urgence. Tu sais, la fille, la petite, elle est mot qui court. Je m'en irai pas chez nous parce qu'elle est mot qui court.
Exact.
Mais c'est pas évident toujours pour les familles, absolument pas.
Puis, quand tu reviens à la maison pour de bon, le temps, il est-tu plus dur?
Ben, tu parles là.
Quand t'es revenu pour de bon après ta carrière dans la Ligue nationale de hockey, as-tu sauvé et a dit hey, tu sais quoi, j'étais bien tout seul finalement?
Non, écoute, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident, mais c'est. Puis même pour nous autres,
ouais.
Hey, pas dire à la fin. Hey, quand moi j'ai passé. En 2023, j'ai pensé que j'arbitrais à tous les jours, puis j'étais parti à tous les jours, j'arrivais chez nous, me suis fait opérer au genou, j'ai été couché dans le lit 2 semaines, puis là, je ne bougeais plus, je ne faisais plus rien. Elle m'a dit, on a fait, j'en ai broyé, là. Je trouvais ça dur, là. À un moment donné, je me demandais même si je ne faisais pas de dépression, c'était pas drôle, là. Puis, mais non, écoute, ça, tu t'habitues, mais oui, c'est pas évident. Quand tu es habitué de faire ça pendant 20 ans, que tu fais ça 21 ans, puis tu arrives, bang, ça coupe en deux. Fait qu'il faut se trouver des choses, faut se tenir occupé.
D'ailleurs, on va parler des choses qui t'occupent tout de suite après la pause. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir Justin Saint-Pierre dans Marceau Soir. C'est un ancien arbitre de la Ligue nationale de hockey. Il a arbitré au-dessus de 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey. On est dans la fièvre des séries éliminatoires, donc j'imagine que ce podcast-là vous plaît. Donc, on fait une courte pause, puis on continue tout de suite après.
Marceau le soir. Marceau le matin.
C'est le père et la mère de ces deux petits garçons-là qui ont été frappés dans le secteur de Beauport le 4 mai à 15h45. Mélissa Sénéchal et Pascal Ménard qui sont avec nous en studio. Donc, t'en as un qui est dans un processus de retour à l'école. T'en as un autre. Lui, c'est des dommages qui sont peut-être un peu plus graves.
Maintenant, on peut considérer que son état est stable. On craint plus pour sa vie.
Ce que je retiens, c'est que, bon, tu sais, il y a plein de gens autour de vous qui semblent extrêmement bienveillants.
Des gens au chul qui sont tout à fait formidables. Je vous donne un exemple. Un urgentologue qui est en congé, mais qui prend le temps de venir voir Jacob quand même, parce qu'il se sent heurté. Lui aussi, il a des enfants. Pour moi, je trouve que c'est des gens tellement humains. Je veux juste rajouter une minute. Je sais que je suis camionneur, Yannick, je passe 60 heures de ma vie sur le chemin. Dans les dernières années, c'est atroce. Pourquoi les gens sont aussi pressés? Pourquoi les gens prennent autant de risques? C'est ça que ça donne. Ça donne des drames que j'aurais jamais voulu vivre.
Marceau, le matin, en semaine, 6h.
Ce segment d'émission, présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
Le nouveau EV5, c'est votre VUS électrique à moins de 46 000 $. Fini les factures d'essence. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Ce segment d'émission présenté par la Force Kia.
Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair vous disent merci.
Kia est la marque la plus vendue dans la région.
À moins de 45 000 $, le Sportage hybride, c'est le meilleur des deux mondes quand on a un VUS. Kia Québec Sainte-Foy et Val-Bélair domine grâce à vous.
Décourante, spécialiste en garde-corps verre et aluminium, vous offre des produits québécois sur mesure, garantie 20 ans avec un rabais de 15 %. Visitez déco-rampe.com.
Envie de décrocher cet été? À seulement une heure des ponts, les aides-chemins vous attendent. C'est le paradis du plein air, que ce soit pour une descente à vélo de montagne, une partie de golf entre amis ou une sortie relaxante en paddleboard sur le lac. Ou laissez-vous tenter par les délices de la région. Entre deux arrêts agro-touristiques, savourez une crème glacée aux petits fruits locaux et découvrez nos micro-brasseries et nos fermes maraîchères. Dormez sur place dans nos hébergements en pleine nature. Les aides-chemins, gourmands, actifs et surprenants. Planifiez votre escapade sur tourisme-etchemin.qc.ca.
À Québec, un Ford, ça se penche déjà d'un Ford.
Profitez d'offres exceptionnelles chez Desjardins Autocollection. En mai, obtenez le Bronco Sport 2026 à partir de 89 $ par semaine en location 60 mois. Et le F-150 2026 en financement à partir de 0 % jusqu'à 72 mois. Pour les meilleures offres, passez nous voir chez Desjardins Autocollection.
Vous cherchez un endroit spécial pour le brunch du dimanche? Venez goûter la cuisine du Moulin de Beaumont. Savoureuse, unique et servie dans un décor parfait pour un délicieux moment en famille avec une vue exceptionnelle sur le fleuve et l'île d'Orléans. Réservez votre place, moulindebeaumont.ca.
Vivace ou annuel, telle est la question. Fanny de ne pas être bien conseillée pour un bouquet de choix. Une Floralie de couleur. Faites-vous une fleur et passez chez Floralie Jouvence, votre centre jardin sympathique. À Québec et Lévis, ouvert tous les soirs en semaine jusqu'à 21h.
Avant d'appeler le garagiste puis de signer une facture salée, fais un arrêt stratégique chez Pièces d'Auto Extra. Les pièces sont jusqu'à deux fois moins chères qu'ailleurs. Pièces d'Auto Extra, Saint-Émile, Amel et la nouvelle succursale de Beauport. Piècesautoextra.com.
Saviez-vous que Vancouver fait partie des destinations accessibles par vol direct au départ de Québec parmi plus de 35 destinations? Voler de l'aéroport international Jean-Lesage de Québec, c'est simple. Visitez décollerdequebec.ca ou parlez-en à votre conseiller en voyage.
Entre le chantier et le chalet, pour tout ce qui est gros pis lourd, le Toyota Tundra, il y en a du coffre. Après l'avoir vu à l'ouvrage, vous allez comprendre pourquoi il fait autant jaser. Ça, c'est l'effet Tundra. Découvrez le Tundra et d'autres modèles emballants pendant la vente étiquette rouge. Mais faites vite, la vente se termine bientôt. Visitez achetezmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Village Vacances Valcartier vous fait une offre à faire crier de joie. Achetez une passe de saison au Village Vacances Valcartier à seulement $79,99 et obtenez un accès illimité pour la ronde et le parc aquatique Calypso. Trois parcs, trois fois plus de plaisir. Abonnez-vous au bonheur avec Village Vacances Valcartier. Offre valide jusqu'au 14 juin.
Ton boss t'a encore dit « on va s'en reparler ». Tes projets avancent à deux à l'heure puis t'es tanné de rafraîchir ton écran en attendant que ça bouge. Viens nous voir. Ici, ça avance, puis vite. Chez Trudel, on fait pas juste construire, on transforme Québec. On cherche des gens brillants, créatifs, ambitieux. Du monde qui a envie de faire une vraie différence. Si tu veux évoluer dans une équipe innovante et passionnée, t'es à la bonne place. Va voir Trudel.ca et viens bâtir quelque chose de grand avec nous. Trudel, forger l'espace.
C'est la saison des cornets chez McDo. Les cornets à la vanille sont à seulement 1 $ plus taxe tout l'été. Et nos cornets vont vous faire craquer. Seulement 1 $ plus taxe, exclusivement sur l'appli McDo. Téléchargement de l'appli et inscription requis dans les McDo du Canada participants.
Ne laissez pas cette rare opportunité passer. Dernière journée pour profiter du rassemblement des concessionnaires Nissan de Québec et Lévis. Comparé avec la compétition, nos joueurs vedettes comme le populaire Rogue et le flamboyant Kicks, qui dominent autant au niveau de la performance que du prix. Par exemple, louez sur 36 mois le Rogue S à partir de $99 par semaine, avec en prime une carte d'essence de $750. Mettez-nous au défi, mais faites vite, ça finit aujourd'hui à 20h. Détails chez vos concessionnaires Nissan de Québec et Lévis.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock.
Boulevard 102.1.
Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir. Marceau le soir. Le soir.
Dans Dans Marceau Soir, on a le plaisir d'être avec Justin Saint-Pierre qui a arbitré plus de 1200 matchs dans la Ligue nationale de hockey. Aujourd'hui, il est à la retraite. C'est un très, très jeune retraité. On a parlé un peu du show, de la job d'arbitre, des joueurs qu'il avait rencontrés dans la première portion. Puis dans la deuxième portion, j'aimerais ça, Justin, parler de ton après-carrière. T'avais-tu préparé ton après-carrière de la Ligue nationale de hockey en tant qu'arbitre?
Non, pas vraiment. Écoute, je savais que j'allais apprendre à un moment donné, mais je n'ai pas préparé. Puis là, j'ai mes écoles d'arbitre aussi. Je suis rendu avec... ça fait 7 ans que je suis au Saguenay. Puis là, on est rendu... On va à Châteauguay, on va aller à Sept-Îles-Bécomo comme l'an passé. Et puis, Trois-Rivières s'est ajouté cette année. Puis, on a encore le Saguenay. Alors, je me tiens occupé pas mal là-dedans. Je supervise l'hiver aussi dans le Midget 3 collégial. Puis, à peu près ça. Je reste dans le hockey. Je suis dans le hockey. Je suis dans le sérieux de hockey Sadlac au Saguenay. Je m'occupe des parents qui chiolent après les arbitres, les coachs qui chiolent après les arbitres qui arrivent à retard au game. Puis ça, je les rencontre. Puis j'essaie de régler des petits problèmes. C'est pas des gros problèmes, mais il faut être là pour les régler puis supporter aussi là-dedans.
Puis tes écoles d'arbitre, est-ce que c'est des écoles pour peaufiner le métier d'arbitre ou c'est pour prendre des jeunes de A jusqu'à Z puis des amener à « je veux être arbitre » jusqu'à être un vrai arbitre?
Écoute, on a différents âges. On commence, je pense, ça commence à 12 ans, si je ne me trompe pas. Et puis, on essaie de faire deux groupes. Comme les nouveaux qui arrivent, on les met dans un groupe tout seul. Puis on a un groupe avancé. Fait qu'on fait de la théorie, les règlements, des séances sur glace. On fait beaucoup de séances sur glace parce que pour le positionnement, c'est important pour les jeunes arbitres de savoir où se positionner pendant une game de hockey. Puis, éventuellement, on a des conférenciers. On a des gars de la nationale qui viennent avec moi. Moi, je n'embarque pas sur la glace à cause de mon genou, mais des gars, ils embarquent sur la glace. Alors, c'est toutes des expériences que les jeunes adorent. Ils voient des Éric Furlat, Pierre Lambert. Tu sais, c'est toutes les jeunes capotes quand je les fais venir. Puis les gars sont super gentils, ils viennent me donner un coup de main. Puis juste, je parlais avec Éric pour Trois-Rivières cet été. Puis Éric, il va venir au Saguenay aussi. Puis Pierre Lambert va venir à Châteauguay, il va venir au Saguenay. C'est toutes des petites affaires que les jeunes apprécient beaucoup. Puis je fais tout le temps rencontrer un préparateur physique. Oui, c'est peut-être les jeunes seront jeunes un peu pour commencer ça, mais je veux lui faire comprendre que c'est important de l'entraînement aussi dans le hockey. Puis je fais le matin, je lui fais faire une petite course, puis plein d'affaires ici. Puis c'est à peu près ça. On lui montre un petit peu de tout, puis on essaye de faire évoluer les jeunes aussi. Parce que les règlements, c'est 90% d'un game de hockey. Un arbitre qui ne connaît pas son règlement, qui ne connaît pas le règlement, il arrive de quoi? Il oublie ça, il faut qu'ils savent les règlements, puis on travaille beaucoup dans les règlements aussi.
Puis, c'est-tu encore possible pour un jeune Québécois d'espérer faire une carrière en arbitrage dans la Ligue nationale de hockey? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant ou c'est à peu près la même chose?
Non, je pense que c'est à peu près la même chose. Écoute, à cette heure, ils regardent beaucoup le patin. Les boss dans la Ligue nationale, c'est le patin. Ils sont forts sur le patin, les règlements, le jugement. Éventuellement, si tu es un bon arbitre, tu vas avoir un bon jugement. Alors, les boss en regardent beaucoup ça. Puis, le patin, je dirais que la Ligue nationale, à ce temps, c'est débile. Puis, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui sont engagés dans la Ligue nationale à cause de ça.
Puis, les arbitres sont-tu tout le temps sur le même profil? T'sais, tantôt, on parlait des gardiens de but. Bon, les gardiens de but, ça a toujours été des joueurs un peu à part là, de l'équipe, avec des personnalités un peu mystérieuses. Il y en a qui sont quand même cabotins. Mais pour la plupart, sont très particuliers. Les arbitres, c'est la même chose. Y en a-tu des méchants? Y en a-tu des weird? Y en a-tu des très, très drôles?
Écoute, des très, très... Oui, y en a des drôles. Y en a que... Les arbitres, c'est jamais méchant, les arbitres. Là. C'est pas... Non, vous pensez que ça... C'est pas parce qu'on colle les positions qu'on est méchant, voyons donc. Non, mais écoute, moi, personnellement, j'ai jamais vu... On a toute une personnalité. Oui, il y a des arbitres qui vont être plus bêtes que d'autres. Il y en a qui rient moins que d'autres. Mais, tu sais, c'est pas... C'est sa mentalité. C'est pas parce qu'il se donne un air. Là. C'est juste qu'il est de même. Il est fait de même. Il y a des joueurs qui sont de même aussi. Il y a des joueurs qui sont super drôles. Il y a des joueurs qui sont bêtes. Il y en a que tu peux pas lui parler. Mais du côté des arbitres, c'est un peu la même affaire. Mais, tu sais, écoute, j'ai jamais eu de problème avec les arbitres. Puis moi, je suis un gars qui est assez... Et je niaise tout le temps, puis j'ai tout le temps le sourire dans la face, puis je m'amuse. Puis, exemple, un gars comme Wes McCauley, c'est un gars-là, il n'arrête pas dans la chambre d'arbitre, il s'habille, puis il marche en rond, puis il se met ses combines, puis il patine pas, mais je veux dire, il marche dans la chambre d'arbitre, puis il niaise, puis il fait des jokes, puis J'ai parlé hier matin à West McCauley, puis au téléphone, puis on a du fun ensemble. Puis super fin, c'est un gars qui est terre à terre, un gars. Puis il pourrait se prendre pour un autre s'il voudrait. Il a fait des grosses games d'hockey. Il a fait, je pense qu'il est rendu à 24-25 games, 7 dans les séries éliminatoires. Puis écoute, il pourrait, mais c'est pas un gars de même. Puis il va rester terre à terre. Puis c'est toute une bonne personne. Là.
Justin Saint-Pierre, pour les gens qui voudraient en savoir plus sur tes écoles d'arbitrage, ils peuvent faire quoi pour s'informer?
Écoute, école d'arbitre au hockey Justin Saint-Pierre, il y a tout ça là. Tu peux t'inscrire là-dessus.